jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous demander comment rapatrier dans le patrimoine commun de l'humanité tout un pan de la pensée, du savoir et de la philosophie oublié, occulté. Des manuscrits du Sahara aux écrits des plus grands philosophes arabes. Pourquoi ces lumières-là nous font tant défaut aujourd'hui? Un mois après les terribles attentats de Paris, il nous a semblé urgent de retrouver et de partager toutes ces connaissances transmises depuis des générations dans un esprit d'ouverture qu'il est fondamental de nous réapproprier aujourd'hui, ce que nous allons tenter de faire avec nos invités, le philosophe Ali Ben Makhlouf, auteur de « Pourquoi lire les philosophes arabes » et l'ethnologue Romain Simnel qui vient de publier « Ne mange pas ce livre », les enjeux des manuscrits au Sahara autour de la question comment réinscrire ces manuscrits et les philosophies arabes dans notre patrimoine commun. Bienvenue. Bonjour Ali Ben Makhlouf.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est et à Sciences Po. Vous enseignez la philosophie arabe et la philosophie de la logique. Auteur de nombreux ouvrages, on peut citer ceux que vous avez consacrés à Averroès et à Montaigne. Vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique. Et vous venez de publier chez Albin Michel un ouvrage qui résonne tout particulièrement aujourd'hui en France, un mois après les attentats contre Charlie et contre l'hypercacher. Pourquoi lire les philosophes arabes? Pourquoi est-ce indispensable, Ali Ben Makhlouf, selon vous, de les rapatrier, hein, c'est ce que vous m'avez écrit dans votre jolie dédicace, aujourd'hui dans notre patrimoine commun?
Parce que ces philosophes du Moyen-Âge, ils ont souffert d'un cloisonnement et pour finalement les rendre simplement disponibles à ceux qui sont spécialistes du monde médiéval, connaisseurs de la langue arabe. Et moi, j'ai voulu véritablement décloisonner en jetant une perspective contemporaine sur cette philosophie et pour précisément qu'elle soit mise en plasticité avec toutes les références qui constituent la philosophie en Europe depuis la Renaissance. Et c'est pourquoi j'ai en quelque sorte voulu revivifier cette tradition.
Romain Simnel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, chercheur à l'IRD, basé au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, même si vous passez le plus clair de votre temps dans le sud marocain, auprès des nomades, poètes et marins du Sahara occidental, c'est le titre de l'un de vos ouvrages. Mais c'est sur un autre petit livre que nous arrêtons aujourd'hui, « Ne mange pas ce livre », c'est son titre, « Mali, Mauritanie, Maroc, les enjeux des manuscrits au Sahara », que vous avez publié aux éditions marocaines de la Croisée des Chemins. Et quels enjeux? Il s'agit en fait, Romain Simnel, d'une véritable guerre, d'une chasse aux manuscrits, ceux de Tombouctou et d'ailleurs, une guerre du savoir.
Oui, une guerre du savoir, enfin si on lit les événements actuels à la lecture d'une analyse sociologique, on se rend compte en effet qu'il y a une opposition en fait entre deux manières de vivre l'islam, deux manières de vivre le texte et le manuscrit, c'est-à-dire le soufisme, ce qu'on appelle le soufisme, et le wahhabisme ou le salafisme, c'est-à-dire en gros entre l'ésotérisme finalement de l'islam et le fondamentalisme. Et au travers de cette lecture, on peut arriver à comprendre l'histoire des groupes dans ces espaces depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux événements récents qu'on a vus justement à Tombouctou et dans le nord du Mali.
Autour de la question comment inscrire, réinscrire les manuscrits du Sahara et les philosophies arabes dans notre patrimoine commun, on va commencer par quelques pistes de réflexion sonore sur la piste des manuscrits de Tombouctou avec le mix de Charles Pélabon, très inspiré par cet excellent documentaire sur lequel nous reviendrons, de Jean Crépu.
En avril 2012, les djihadistes s'en prennent au patrimoine culturel et religieux de Tombouctou. On craint le pire pour les milliers de manuscrits conservés depuis des siècles. Des manuscrits qui témoignent de l'une des traditions écrites les plus riches du monde.
De la grammaire à la théologie, en passant par les droits, par la littérature, même des textes scientifiques.
Pour les manuscrits, tout ce qui était possible de sauver, il faut le sauver en urgence.
Il y a des gens qui ont étudié l'islam autrement.
La transmission du savoir était une priorité dans cet islam des Lumières, fondé sur le droit et la justice.
C'était pas qu'un danger sur la culture malienne, c'est un danger sur la culture de l'humanité.
Dans le plus grand secret, un incroyable sauvetage s'organise.
Il y a eu d'abord une sorte de mythification de ces manuscrits. leur valeur patrimoniale, scientifique et culturelle dépend de l'exploitation qu'on va en faire.
Les manuscrits ont changé ce regard élémentaire qu'on avait sur l'Afrique. Ils ont montré qu'en Afrique aussi, il y avait un monde de production littéraire.
Les philosophes comme Al-Farabi, Avicenne, Averroès, pour ne noter qu'eux.
Les savoirs qui ont été élaborés dans le monde arabo-musulman, ils ont été transmis en Inde, ils ont été transmis en Chine. Malheureusement, nous vivons encore dans une histoire des sciences qui est beaucoup tournée vers l'Europe.
C'est la mathématicienne Karine Chemla qui le dit, Ali Ben Maclouf. Pourquoi a-t-on, oublié, occulté, négligé tout cet héritage des philosophes arabes?
Ben, nous sommes avec un anthropologue ici, Romain Simnel. Je pense à un autre anthropologue, Jacques Goudy, qui dans son ouvrage traduit chez Gallimard en 2009, Le vol de l'histoire, dit que un des grands mythes de l'Occident est de dire nos valeurs, alors qu'il s'agit de valeurs humaines largement partagées. Autrement dit, nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité pour ce qui est de la devise républicaine française, mais plus généralement tout ce qui est autour des exigences de justice et des exigences de liberté, elles sont unanimement partagées. Mais le mythe occidental a consisté en quelque sorte à détourner ces valeurs pour se les approprier de manière restreinte, alors qu'en réalité elles sont largement partagées. Dans ce que nous venons de dire, le Malien parle de culture humaine menacée, il ne dit pas culture malienne, et je crois que ça c'est un enjeu très très important, c'est de pouvoir éviter la miniaturisation des êtres humains dans des cultures ou dans des boîtes religieuses, qui fait qu'après, eh bien, se perd le fil de la transmission qui consiste à mettre les vies en faisceau. Et les vies humaines sont en faisceau, non pas parce qu'elles sont des vies culturellement déterminées, mais tout simplement parce que ce sont des vies humaines. Les virus, les maladies, le froid, le chaud, le rapport à la planète...
nous
atteignent tous de la même façon, qu'on soit juif, musulman ou de toute autre confession.
Et vous-même, en tant que philosophe, Ali Ben Maclouf, vous avez publié un livre sur Montaigne et un livre sur Averroès.
Tout à fait, effectivement. Pour moi, c'est deux figures en trait d'union, parce que Montaigne, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Et cette Renaissance est tellement en dette à l'égard des figures intellectuelles médiévales. Elle n'est pas née ainsi. Le grand philosophe Whitehead, anglo-américain, dit que c'est parce qu'on a beaucoup contemplé et intellectualisé durant le Moyen-Âge qu'on a si bien observé pendant la Renaissance. Et qu'en réalité, la grande gymnastique d'esprit de ces siècles spéculatifs et de contemplation et de travail sur le donné religieux durant le Moyen-Âge fut véritablement, dans la belle continuité de l'histoire de l'humanité, un exercice pour bien contempler et accumuler les faits dont la Renaissance est porteuse.
Et ces philosophes arabes, justement, ce que vous démontrez notamment dans votre livre, parce que vous nous donnez à lire parce qu'on ne le sait pas, c'est qu'au fond, chacun représentait quoi? Des quêtes différentes de la vérité. Mais il n'y a pas une vérité, hein?
Il y a une vérité. Il y a une vérité, oui, mais il y a des multiples accès à la vérité. Il y a une vérité parce que sinon elle se fragmente et puis il n'y a plus de science, il n'y a plus de domaine partagé. En revanche, il y a des multiples accès à la vérité, soit rhétoriquement, si on est complètement pris dans les images et les paraboles, soit dialectiquement, si on est dans le crible des idées comme ce que nous faisons ici avec vous, soit démonstrativement, le stylo à la main, quand on veut avoir un savoir certains. Et une même vérité, mais des multiples accès, parce que la vérité témoigne toujours pour elle-même. Et il n'y a pas, par exemple, une vérité de la foi et une vérité de la raison, mais ce que dit la foi peut se retrouver par la déduction rationnelle. Et donc, c'est très intéressant, c'est l'idée que, finalement, on parvient à une même connaissance, authentifiée, validée, mais par des voies différentes. Averroès, pour un exemple qui semble très particulier, le rite, le mouton qui est sacrifié durant la fête dite du mouton, on a l'impression qu'il y a l'élément le plus particulier, il n'y a pas plus particulier que ce rite-là. Eh bien, il dit, vous savez, quand on sacrifie le mouton, ce qui compte, c'est pas d'où vient le couteau, mais s'il coupe bien. Autrement dit, c'est toujours la validité de la connaissance qui est importante et non pas son origine, et c'est pourquoi il militait pleinement pour la traduction des ancêtres païens, Platon et Aristote, en milieu musulman, et le paganisme s'invitait en milieu arabo-musulman en raison de la validité de la connaissance.
Belle figure d'Averroès, Romain Simmel, figure que vous avez retrouvée aujourd'hui au Maroc. Il y a des descendants spirituels d'Averroès.
Oui, oui, en fait, dans le sud du Maroc, il y a des madrassas et des zaouias, donc des sanctuaires religieux et spirituels, et qui sont en fait dirigés par des familles maraboutiques, et certaines se revendiquent être descendants donc de Ibn Rushd, donc de Averroès. Et ils sont dotés donc d'une généalogie. Alors, peu importe de savoir si la transmission est réellement biologique, c'est une construction sociale, et tant mieux.
Ils se revendiquent de héritage-là, de ces lumières-là.
Exactement, ils se revendiquent de ces lumières-là, et plus encore, ce qui est très intéressant, c'est que les habitants donc de la région les considèrent comme des shérifs, c'est-à-dire comme un statut religieux particulier. On a l'habitude de parler des shérifs pour les descendants du prophète Mohammed, et là, on voit qu'il y a une nouvelle forme de shérifisme qui apparaît au Maroc, qui serait donc être descendant d'une lumière, être descendant d'un maître savant, en l'occurrence Averroès.
Je vous propose de nous arrêter quelques instants du côté au Maroc, du côté de Fès, avec, je ne peux pas bien prononcer ça là, Hmatcha, merci, de Fès, extrait d'une compilation du Festival des Musiques Sacrées de Fès. Dans cet extrait d'une compilation du Festival des Musiques Sacrées de Fès, à l'Ibn Maklouf, que vous allez,
oui,
vous allez vous occuper cette année.
Oui, je suis directeur du forum de ce festival, j'en suis très heureux, et donc à côté du Festival de Musique Sacrée se tient un forum, 5 tables rondes pour débrouiller les enjeux contemporains, et cette année le fil conducteur c'est Léon l'Africain et Fès au miroir de l'Afrique, avec justement toute cette descente de contacts, de chemins spirituels et de chemins commerciaux avec l'Afrique, et l'appel qu'on vient d'entendre, c'est l'appel pacificateur par répétition du nom de Dieu. Il est vrai qu'il est, enfin, plus que jamais important de se dire que dans le sud de la Méditerranée, il y a des lieux de débat où on crible les idées, tout aussi bien qu'en Europe, et il faut multiplier ces foyers.
Important de le dire autour de la question: comment inscrire, réinscrire les manuscrits du Sahara et les philosophies arabes dans notre patrimoine commun? Nous partons justement sur la piste des manuscrits de Tombouctou, avec cet extrait du film documentaire de Jean Crépu qui nous ouvre les pages de cet héritage commun de notre humanité, aujourd'hui en grand danger.
Vous savez, tout sur des sujets. De la grammaire à la théologie, en passant par les droits, par la littérature, par l'histoire, par les chroniques, par la pharmacopée et même des textes scientifiques.
Les manuscrits révèlent des textes d'une grande ouverture d'esprit. Traité d'émancipation des esclaves, conseils pour réussir un acte sexuel, textes sur le divorce ou encore sur les sciences ésotériques.
Pour moi qui ai eu la chance d'avoir accès à leur contenu, c'est vraiment mystérieux. À travers ces manuscrits, on a vite compris à Tombouctou ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Ça, c'est à l'intérieur des manuscrits qu'on a ces connaissances et depuis le 16e siècle. L'islam, c'est, pour nous, c'est la mère de la science.
C'est toute une culture islamique qui s'est propagée à travers les manuscrits. La transmission du savoir était une priorité dans cet islam des Lumières, fondé sur le droit et la justice.
L'islam que ce pays-là a toujours pratiqué, c'est un islam modéré, un islam sans violence, un islam sans extrémisme, un islam où il y a la tolérance. Et ça, nous trouvons ça dans les manuscrits.
Il y a eu d'abord une sorte de mythification de ces manuscrits, de regard romantique sur ces manuscrits. Tombouctou, la ville des bibliothèques, la ville des saints, tout cela c'est bien. Mais je crois que cet écran de fumée, il faut l'écarter, il faut aller tout droit sur les manuscrits, voir le contenu de ces manuscrits, dire ce qu'apportent ces manuscrits réellement.
Aller tout droit sur ces manuscrits d'Ismaël Diadé Haïdara, aujourd'hui en charge de la bibliothèque de Tolède, tiens donc, qui insiste avec l'historien Mahmoud Abdou Zouber de Tombouctou et le magistrat Moussa Ibrahim Touré de Bamako sur l'importance d'aller tout droit sur le contenu de ces manuscrits et sur le fait aussi que ces manuscrits, j'ai beaucoup parlé de patrimoine, mais Romain Simlen, ce sont des objets de transmission, d'abord oui. Et avant tout finalement.
Oui, le manuscrit est un objet de transmission et c'est comme ça qu'on peut l'inscrire dans toute sa mobilité quoi, finalement, et plus qu'un patrimoine, parce que le patrimoine a tendance un peu à figer la culture, la notion de patrimonialisation a tendance à figer les catégories d'acteurs. Alors, transmission des idées, des savoirs, des valeurs, des représentations, des références qui ont circulé donc avec les manuscrits. Et cette circulation a justement participé à créer un espace de partage. Un espace de partage.
Et cet espace de partage, justement, sud de la Méditerranée, c'est très large. Hein, tout ouais. Le Sahara, déjà, c'est très large. Ouais. Ça comprend l'Afrique du Nord, ça comprend l'Afrique subsaharienne. Ouais. C'est très large comme
espace. Mais il y a des héritages qui sont... On a parlé de l'héritage grec, mais on aurait pu parler de l'héritage romain, l'héritage perse, hébraïque aussi, parce qu'il y a des textes qui sont écrits en hébreu et qui récupèrent, justement, la tradition hébraïque. Donc, il y a berbère, bien évidemment, en premier lieu, et subsaharien. Donc, il y a un ensemble d'héritages, finalement, qui ont permis justement de former ces zaouïas, ces manuscrits.
On oublie combien ces acteurs bougeaient beaucoup oui. Et qu'il y avait véritablement une immense mobilité. Vous parlez de grands espaces, mais il y a aussi une immense mobilité des acteurs sociaux et intellectuels.
Ce qui veut dire aussi que ça bougeait et que ça a évolué, ça n'a cessé d'évoluer.
Et la figure de l'intellectuel, contrairement à celle d'aujourd'hui, ce n'est pas une figure de l'intellectuel institutionnalisé, mais c'est l'intellectuel qui est marchand, l'intellectuel qui a d'un côté un sac où il va vendre sa marchandise et de l'autre des manuscrits qu'il va recopier. Et donc je crois que c'est très important de montrer que c'est une forme de vie beaucoup plus qu'une fonctionnalité déterminée.
Une circulation des savoirs et une circulation oui. De l'écrit, parce qu'on a tendance oui. À penser, notamment quand on parle de l'Afrique, civilisation de l'oral, de l'oralité, mais non, ce sont des terres de l'écrit.
Oui, oui. Et comme disait Ali, en parlant de mobilité, on pouvait parler aussi du pèlerinage à la Mecque. Quand les pèlerins allaient à la Mecque, ils achetaient des livres, ils amenaient des livres, et donc il y avait des échanges. On peut parler aussi des voyages en Andalousie. Il y a eu énormément d'allers-retours, quand on parlait d'Averroès tout à l'heure.
Ou de Léon l'Africain.
Africains sont des gens qui ont énormément voyagé et qui colportaient avec eux des savoirs, des manuscrits et qui en achetaient aussi, bien évidemment.
Donc c'est colporter, transmettre ouais. Et donc faire bouger aussi ces savoirs-là.
Faire bouger les traditions religieuses, y compris. Parce que le texte, le manuscrit, ce n'est pas seulement pour confirmer la religion, c'est pour la compléter, c'est pour la commenter.
Et c'est pour enchevêtrer les savoirs. On a donné tout à l'heure grammaire, jurisprudence, théologie, etc., pharmacopée, mais il y a un moment où tous ces savoirs communiquent entre eux.
L'enchevêtrement des savoirs autour de la question comment inscrire ces manuscrits et les philosophies arabes aussi dans notre patrimoine commun. On poursuit l'enquête pour essayer d'enchevêtrer encore aujourd'hui, encore et encore les savoirs. Ce sera dans 3 minutes, juste après le flash d'info. A tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment réinscrire les manuscrits du Sahara et les philosophies arabes dans notre patrimoine commun. Nous sommes en compagnie du philosophe Ali Ben Makhlouf, auteur aux éditions Albin Michel de Pourquoi lire les philosophes arabes, et de l'ethnologue Romain Simnel qui a publié Ne mange pas ce livre, Mali, Mauritanie, Maroc, les enjeux des manuscrits au Sahara, autant d'enjeux que l'on retrouve dans un excellent film documentaire signé Jean Crépu sur la piste des manuscrits de Tombouctou, extrait.
En détruisant les monuments soufistes comme les mausolées des saints, les djihadistes s'en prennent à la culture islamique qui a fait l'histoire de Tombouctou.
Le manuscrit aussi a été menacé, parce que ça c'est encore plus dangereux que les monuments, parce que les manuscrits ça peut circuler, ça véhicule une idéologie.
C'est à partir de là que nous avons commencé à déplacer les manuscrits de leur dépôt habituel.
Dans les bibliothèques de Tombouctou, s'organise très discrètement un immense déménagement.
Parce que les manuscrits étaient installés dans une grande salle, donc on les a tous descendus, on les a mis dans des caisses, dans des malles, pour commencer à les disperser encore, pour qu'ils ne viennent pas les trouver.
On s'organise en petite bande pour transporter d'un quartier à un autre quartier, ou d'une maison à une autre maison.
L'étau se resserre. La décision est prise d'exfiltrer hors de la ville les manuscrits de l'Institut public Ahmed Baba et ceux de la bibliothèque Mama Aïdara.
On a pris un risque énorme.
Nous avons choisi à ce moment-là de continuer de jouer la discrétion afin de protéger cette courageuse et admirable initiative de la part d'hommes et de femmes issus de Tombouctou qui avaient décidé qu'ils ne laisseraient pas leur manuscrit tomber aux mains de ses occupants.
C'est le représentant de l'UNESCO au Mali, Lazare Elundu, qui revient dans ce film de Jean Crépu sur l'incroyable exfiltration des manuscrits de Tombouctou à l'arrivée des djihadistes en avril 2012. C'est toute la population des lettrés Tombouctou qui a décidé de les sauver.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs scénarios de sauvegarde. Il y en a eu plusieurs, parce que vous avez les grandes bibliothèques, comme la bibliothèque Ahmed Baba, dont on a entendu parler, mais vous avez aussi des bibliothèques privées, de familles maraboutiques.
Qui elles-mêmes ont ces manuscrits.
Oui, elles ont ça dans des sundouks, dans des grands coffres. Elles gardent, c'est un patrimoine familial, là pour le coup on peut utiliser la notion de patrimoine, parce que c'est au sein d'une famille, et donc c'est leur trésor. Et ce sont des tribus maraboutiques comme les Kunta, comme les Berabèche, qui ont nomadisé et commercé d'ailleurs dans un espace très large allant du Maroc jusqu'au Mali. Et ils sont d'obédience donc soufie, et ce sont eux qui ont été menacés lorsque les djihadistes sont arrivés à Tombouctou. Voilà, alors là, il y a eu une exfiltration non pas seulement des manuscrits, mais des populations elles-mêmes. C'est-à-dire que pour le coup, c'était leur vie qui était en danger. Donc,
parce qu'ils étaient eux-mêmes les détenteurs de ces manuscrits. Mais qu'est-ce que les djihadistes voulaient à tout prix effacer avec ces hommes et avec ces manuscrits?
Ben, je crois que dans le film de Jean Crépu, il l'a très bien dit, c'est-à-dire que c'était effacer tout simplement la religion, l'histoire de la religion qui a fait Tombouctou, c'est-à-dire un islam très ouvert, très tolérant, très ésotérique, exactement ce qu'ils veulent détruire.
Parce qu'effectivement, oui, ce qui menace un djihadiste dans ses manuscrits, c'est que le manuscrit est un tissu de relations humaines. Et comme ils se sont attaqués aux relations humaines, ils s'attaquent précisément à ce tissu de relations humaines. C'est un objet transitionnel, de transition entre les personnes, et précisément, on voit dans ces manuscrits comment la religion est liée à son histoire. Or, un djihadiste vise complètement le transhistorique ou l'âne historique. Et donc, cette idée de voir que l'histoire parle par plusieurs voix, lui ne supporte pas la pluralité des voix. Et donc, la pluralité des voix que donne toujours l'histoire sédimentée dans les manuscrits est une menace véritablement pour cette demande d'homogénéisation que veut le djihadisme.
Oui, pluralité des voix, pluralité des accès à la vérité, pluralité des origines aussi, et puis mélange, hein, d'enchevêtrement aussi.
Tout à fait, c'est cette idée que, en fait, si on prend une image de botanique, l'origine de la tige est perdue. C'est quoi l'origine sinon un immense fantasme? Et de voir qu'ici, cela a été dit qu'il y avait des manuscrits pour l'émancipation des esclaves, il y avait des manuscrits pour l'éducation sexuelle. En fait, les manuscrits étaient inscrits dans des modes de vie. Et ils étaient une forme de vie. Alors du coup, les gens qui les ont exfiltrés, c'était de dire, ne touchez pas à notre forme de vie. Au-delà d'un papier, en fait, c'est une forme de vie qui était menacée.
Romain Simnel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé aussi des mausolées. Il y a une grande différence entre détruire un mausolée et détruire un manuscrit. Un mausolée, pour les djihadistes, il n'y a pas photo. Ils sont sûrs que pour eux, ils ont même à certaines époques détruit le mausolée du prophète Mohammed. Pour eux, les choses sont très claires. C'est impie. Ça doit être détruit. Pour les manuscrits, la chose est un peu plus complexe. Parce que vous savez que brûler un manuscrit dans lequel il y aurait, par exemple, des sourates du Coran, est un sacrilège. C'est un péché ultime. Donc, je pense que en réalité, il n'y a pas eu énormément de manuscrits qui ont été brûlés. Beaucoup ont été pillés, parce qu'il faut savoir que ça vaut de l'argent, et avec cet argent, on peut acheter des armes. Et puis, il y a aussi des fondations qui sont très intéressées pour récupérer ces manuscrits. Des deux côtés, d'ailleurs. Du côté wahhabiste saoudien, on va dire, et puis aussi du côté soufi, avec des Mauritaniens, des Sénégalais, comme les Mourides, ou des Marocains, qui sont collectionneurs, ou issus de familles maraboutiques, et qui ont en charge la préservation de ce
donc ce sont des trésors, hein, sont de vrais trésors, oui. Hein, ces manuscrits Tombouctou. Alors la plupart d'entre eux, enfin une certaine partie d'entre eux, hein, simplement, sont aujourd'hui à Bamako, car la région de Tombouctou libérée est encore et toujours menacée par les djihadistes de tous bords. Qu'en est-il aujourd'hui, hein, où en est-on de leur sauvegarde et de leur retour, peut-être, à Tombouctou? C'était l'objet d'une conférence internationale qui s'est déroulée fin janvier dans la capitale malienne. Je vous propose d'écouter le reportage réalisé sur place à Bamako par notre correspondant David Bachet.
Près de 360 000 manuscrits sont actuellement conservés à Bamako. Leur retour à Tombouctou, dont ils constituent un patrimoine inestimable, est une priorité. Mais 2 ans après la libération du nord du Mali, impossible d'envisager la moindre échéance. La réhabilitation des nombreuses bibliothèques de la ville a commencé, mais elle est encore loin d'être achevée. Abdoul Kadri Idrissa Maïga est le directeur du prestigieux institut Ahmed Baba de Tombouctou.
Au niveau de l'électricité, toutes les installations étaient sabotées. Au niveau de l'adduction de l'eau, il y a des problèmes. Au niveau même des installations sanitaires, il y a des problèmes. Ça gêne le travail. Il y a des problèmes au niveau même des dépôts de manuscrits. Des portes de secours n'ont pas été prévues. Donc on s'est dit maintenant, il faut non seulement réhabiliter, mais faire des retouches pour que le Borco soit vraiment digne de son nom.
Autre problème, le contexte sécuritaire. Les attaques terroristes sont quasi quotidiennes dans le nord. Tombouctou n'est donc pas à l'abri d'une attaque des groupes djihadistes. Pour le moment, la sauvegarde des manuscrits passe donc par leur sécurisation à Bamako, où ce sont désormais de nouveaux dangers qui les guettent. Lazare Elundou, représentant de l'UNESCO au Mali.
Les conditions de conservation ne sont pas complètement réunies. Les manuscrits font toujours face à des dangers d'humidité. Les espaces ne sont pas forcément appropriés. Parce que c'est des locaux qui ont été réservés en espérant que la situation ne durerait pas. Et aujourd'hui, il se trouve que envisager le retour des manuscrits dans les semaines à venir sera très difficile. Ils sont sains. Mais pendant combien de temps, s'il n'y a pas des actions urgentes qui permettront de lutter contre les dangers d'humidité et de trafic illicite?
Au-delà de la conservation physique des manuscrits, leur sauvegarde passe également par un procédé inédit, leur numérisation. Abdoul Kadri Idrissa Maïga, directeur de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou.
L'avantage n'est que quand vous numérisez une page, s'il y a des couleurs, tout ce qu'il y a, ça apparaît de l'image. Donc c'est comme si on garde l'originalité quelque part, mais de façon numérique. Donc on peut stocker, on peut travailler, on peut mettre à la disposition des chercheurs sans pourtant toucher maintenant le papier.
La numérisation des manuscrits conservés à Bamako est en cours, mais paradoxalement, en dépit de leur réputation et de l'intérêt mondial qu'ils suscitent, on n'en connaît actuellement qu'une infime partie. Hassan Moulay est islamologue et spécialiste des manuscrits à l'université de Niamey, au Niger.
L'intérêt du manuscrit, c'est son contenu. Quand on ne connaît pas son contenu, ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à ça et je pense que nos frères du Mali, eux-mêmes, ils ont pris conscience de la nécessité désormais de s'attaquer à la question de l'exploitation. Et donc, il va falloir faire une sélection et puis passer à la traduction en anglais et en français et voir aussi même dans les langues locales.
Pour les rendre accessibles.
Pour les rendre accessibles aussi bien pour les Maliens que pour l'humanité tout entière.
Alors pour les rendre accessibles aux Maliens, mais surtout à l'humanité tout entière, on insiste bien là-dessus, ces manuscrits, les numériser notamment, l'UNESCO a déjà mobilisé 3 millions de dollars, reste à en trouver 8 millions manquants, c'est pas beaucoup. Hein.
Non, c'est rien du tout.
C'est rien.
c'est rien du tout parce que, en réalité, c'est un peu comme ce qui se passe à Bruxelles. On donne plus d'argent pour la vache européenne que pour des textes de traduction. Bon, c'est très important d'avoir la vache européenne.
C'est peut-être très important aussi pour nous tous, surtout aujourd'hui, d'avoir
de traduction.
Ces textes.
Hein. Et ce qui a été dit à la fin, j'ai beaucoup apprécié, c'est que une traduction fait vivre le manuscrit. C'est-à-dire que, comme disait si bien Romain tout à l'heure, c'est pas l'idée tellement de muséifier en installant les choses dans un patrimoine, c'est de faire circuler. Et faire circuler aujourd'hui...
Pourquoi ils n'ont pas été traduits finalement? Ils n'ont pas été beaucoup traduits,
ces Non, c'est ça. Ben, parce que justement, les échanges n'ont pas été si grands. Autrefois, dans les routes médiévales, les échanges faisaient que, de fait qu'on copiait les manuscrits, ils étaient susceptibles d'être traduits ici ou là. Mais quand cesse l'activité de copier le manuscrit, cesse aussi l'activité de traduction.
Qu'il est urgent de retrouver aujourd'hui. Et Romain Sinel, on parlait de numérisation. Alors, ce sont des grands projets de numérisation. Mais au fond, pour vous, ça suffit pas la numérisation et ça ne résoudra pas la question, tous les enjeux autour de ces manuscrits.
En fait, c'est pas que ça suffit pas. On ne doit pas commencer par la numérisation. Parce que, en fait, la première chose qu'on doit, par laquelle on doit commencer, c'est d'instaurer un climat de confiance. Et donc, pour instaurer un climat de confiance, il faut s'intéresser d'abord au savoir de ces gens. Parce que on a tendance à dire, bah regardez, on a des manuscrits qui datent du 13e, 14e, 15e siècle, 16e siècle aujourd'hui. Mais s'ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est bien qu'ils ont été conservés. Donc ces hommes ont des savoirs, et notamment des savoirs liés à la conservation. Des choses qui sont très précises, hein, l'utilisation notamment de plantes particulières qu'on va intégrer donc dans l'encre. Et par exemple, on peut trouver des talismans, hein, comme un talisman qu'on trouve très souvent, « Ya laikataj la taqul hadal kitab », c'est-à-dire en gros, on s'adresse à un génie, un djinn, et on lui dit « Oh, ce djinn ne mange pas ce livre. »
D'où le titre de votre livre, « Ne mange pas ce livre ».
Voilà. Pourquoi ? Parce que ce génie, en fait, est le maître des insectes bibliophages. Donc, des petites mites, etc., qui viennent dévorer un livre. Donc, plutôt que d'essayer de mettre des produits, etc., on s'adresse directement au djinn qui en est maître.
Avec l'encre qu'il faut, hein, c'est
mais
ça.
Mais avec l'encre qu'il faut, exactement.
C'est magnifique. Donc, il y a tous les savoirs.
Il y a tous les savoirs. Vous avez à la fois le savoir talismanique et le savoir donc prophylactique. Sur donc l'utilisation d'une plante pour préserver donc un manuscrit. Donc ce genre de choses, bien évidemment, si on ne s'y intéresse pas, nous n'aurons jamais la confiance de ces gardiens des manuscrits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parliez de numérisation, mais si vous voulez, c'est un peu cliché, mais c'est un petit peu comme la photo, les portraits qu'on faisait à une certaine époque. On disait, mais non, il faut pas sortir son appareil photo tout de suite parce que, bon, alors, les gens peuvent penser que vous allez voler leurs âmes, etc., etc. Mais c'est pareil avec le manuscrit. Le manuscrit, c'est une personne, il a une aura. Il a une aura et il a une personnalité, il a une circulation et donc du coup, on ne peut pas saisir comme ça, dans un moment instantané, le contenu de ce manuscrit, puisque finalement, ce qui fait le manuscrit, c'est sa vie elle-même. Et sa vie elle-même, on ne peut pas la numériser.
Et c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un objet, beaucoup plus qu'un objet livre. C'est-à-dire que c'est à la fois tout le contenu, tout ce qu'il contient, toute l'histoire, tout ce qu'il représente, et tout le savoir inclus à l'intérieur.
Oui, c'est une imprégnation de vie.
Exactement.
C'est une imprégnation de vie et non pas un objet simplement réifié. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans la manière, dans les salons du livre. Moi, je suis toujours très attentif où les jeunes gens, je les vois au Maroc, par exemple, ont une appréhension à ouvrir le livre. Par faute d'accoutumance, mais il y a cette idée qu'effectivement le livre comprend quelque chose qui est au-delà de l'objet réifié. On va pas l'ouvrir et le refermer avec l'aisance qui est la nôtre, aussi par absence d'accoutumance d'ouvrir le livre. Ça, je crois que le statut du livre est très très important, comme le statut de l'image, ça a été dit pour la photographie, du fait qu'il n'y a pas une forte circulation, je parle d'aujourd'hui, du livre et de la, et de, et de la, et de la photo, surtout du livre, eh bien, du coup, on garde un rapport d'appréhension et non de réification à l'objet.
Donc, vous, il faudrait retrouver la confiance pour que ça puisse recirculer, justement, qu'on puisse réouvrir ces livres qui sont, qui ont tout ce qu'il faut pour être préservés, et puis, dans un deuxième temps, les numériser, pour les faire partager au plus grand nombre.
Oui. Alors, une preuve de justement, de cette vie, du manuscrit, c'est que, en fait, un manuscrit n'est jamais terminé. Il est toujours complété. Si vous voulez, dans les marges, vous
il
allez trouver...
Il peut toujours être complété.
Il peut toujours... Il doit être complété, ouais, sinon il est mort. Mmh. Et donc, vous avez des savants, des commentateurs dans la marge, et ça ne cesse. Alors, si vous numérisez ce manuscrit...
On peut plus le commenter dans la marge. Exactement. C'est fini, on le fige. Hein.
Oui, effectivement, la pensée est dans la marge.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la vie du manuscrit va se dérouler autour du manuscrit par toutes les annotations. Et très souvent, on s'est demandé, qu'est-ce qui fait, je pense à mes philosophes arabes, qu'est-ce qui fait que la forme du commentaire a été vraiment la forme de l'écriture philosophique? Parce que le commentaire est une façon de continuer l'œuvre pour dire ce qu'elle n'a pas dit, mais qu'elle peut, qu'elle aurait pu dire.
Et qu'elle pourra peut-être encore dire. Alors on va se laisser gagner par le blues malien d'Ali Farka Touré et Toumani Diabaté. 56, c'est votre choix, hein, Ali Ben Makhlou. Sur RFI tout de suite. De la cora d'Ali Farka Touré et Toumani Diabaté, de la guitare aussi, hein, 56, le morceau préféré d'Ali Ben Makhlouf, celui qui aime penser dans la marge sur RFI, autour de la question comment réinscrire les manuscrits du Sahara et les philosophies arabes dans notre patrimoine commun. Je vous propose justement un dernier éclairage, Ali Ben Makhlouf et Romain Simnel, celui de l'historien Michel Pierre, auteur lui de Sahara, le grand récit.
Ce qui m'a frappé, malgré des mesures, malgré tout, de protection en allant récemment à Chinguetti en Mauritanie, c'est de voir tous ces manuscrits qui sont dans des familles et qui mériteraient d'être peut-être encore mieux protégés qu'ils ne le sont. Alors je pense qu'il y a un grand programme de numérisation qui a été fait. J'avoue très franchement que je ne sais pas très précisément où il en est aujourd'hui, mais que ça me semble un véritable enjeu. C'est-à-dire parvenir, malgré les circonstances, à numériser cette gigantesque bibliothèque qui existe dans le Sahara, qui existe dans des familles, y compris des familles qui peuvent être des familles nomades. Là, je pense plutôt au Niger, serait un formidable défi qui a déjà commencé à être relevé il y a plusieurs années avec des colloques, des rencontres, des travaux. On a là une mémoire extraordinaire de l'humanité et des contacts justement entre l'Orient et l'Occident, puisque certains de ces manuscrits venaient d'Iran Et vraiment, là, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et la question, c'est peut-être de revenir et d'avoir à nouveau une ambition par rapport à la conservation et à la mise à disposition, à la traduction. Le phénomène de traduction, quelle que soit la langue, du reste, me semble essentiel pour donner à la disposition de l'humanité ces dizaines de milliers de volumes qui restent encore à découvrir.
Des dizaines de milliers de volumes qui restent encore à découvrir, vous confirmez, Annie Benmaclou?
Ah oui, tout à fait, parce qu'on a cette idée souvent préconçue que l'Afrique, c'est la tradition orale. Et depuis tout à l'heure, on parle de tradition écrite. Et je crois que c'est très, très important de souligner qu'il y a aussi cette tradition écrite. Bien sûr, il y a la tradition orale, mais cette tradition écrite. Et ce que dit Michel Pierre, c'est superbe quand il dit la traduction pour mettre à disposition. Moi, je dis la traduction pour enrichir aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que le manuscrit révèle son contenu, ce contenu a besoin d'être traduit, parce que s'il est traduit, on y revient pour précisément en saisir tous les enjeux. Et tant qu'il n'est pas traduit, il est dans une forme d'autoréférence qui le confine.
Et oui, vous disiez bien qu'il faut le traduire, qu'il faut le penser dans la marge. Civilisation de l'écrit et pas n'importe quelle écriture, donc Romain Signel, parce qu'on n'a pas parlé de poésie encore.
Oui, parce que finalement, l'écriture, elle est tout à fait compatible avec l'oralité. Et parce qu'on parle de ces manuscrits, on parle de la conservation, de la traduction, mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est comment les enseigner. C'est-à-dire que ces manuscrits n'ont pas été stockés comme ça. Leur contenu a été véhiculé par ce qu'on appelle des tolba, donc des étudiants, et cet enseignement, existe depuis des siècles et des siècles. Alors, comment justement cette chaîne de connaissances a pu arriver jusqu'à nous et comment enseigner les manuscrits?
Oui, comment les faire vivre, comment les enseigner encore aujourd'hui, aujourd'hui,
exactement,
à nouveau aujourd'hui.
Exactement. Eh bien, si on regarde un petit peu la pédagogie des maîtres savants dans ces aouïas et ces madrassas du sud marocain, ben vous voyez qu'ils utilisent systématiquement la poésie. La poésie est un véhicule finalement de la transmission du contenu de ces manuscrits. Alors, que ce soit du droit, que ce soit du rite religieux, que ce soit de la théologie, que ce soit de la logique ancienne ou même des mathématiques ou de l'astrologie, eh bien, vous avez des cours donc de ces maîtres qui vont, par exemple, donner toutes les règles de la trigonométrie, par exemple, sous la forme de la poésie. Pourquoi ? Parce que la métrique du verbe est utilisée comme processus mnémotechnique.
Pour s'en rappeler, pour que ça s'inscrive mieux dans l'esprit.
Exactement.
La poésie, alors là je m'adresse au philosophe de la logique que vous êtes, Ali Benmaclou, la poésie ça aide à comprendre les mathématiques.
C'était un enjeu essentiel parce qu'en réalité la logique aristotélicienne de ces grands logiciens Al-Farabi, Avicenne, Averroès, allait des opérations classiques de la conception, du raisonnement, de la définition, du jugement, aux opérations de la persuasion rhétorique et de la métaphore poétique.
Ah, fallait faire passer, convaincre.
Exactement, c'est-à-dire que les grandes opérations ne suffisaient pas, il fallait absolument, comme vient de le dire Romain, les enseigner. Les enseigner, c'est tout de suite se placer au niveau des images et au niveau de la métaphore. La métaphore était considérée comme un raisonnement potentiel, parce que finalement, quand je fais une métaphore, vous êtes en suspens de pouvoir l'accepter. Et quand vous l'acceptez, vous l'avez complété.
Et intégrée, véritablement.
Elle est partie, comme dirait Montaigne, la parole est partie à celui qui le dit, partie à celui qui l'entend. Et un autre point important, Romain l'a souligné, le savoir dans sa forme standard, la pharmacopée par exemple ou la médecine, elle-même était par exemple mise en poésie. La Orjouza d'Averroès qui répond au canon d'Avicenne. Il y avait véritablement une écriture poétique au service d'un savoir à transmettre et aussi probablement par résonance avec les images et les paraboles du texte sacré quand il dit que les plantes et les arbres se prosternent. Eh bien, on peut en faire une déduction rationnelle pour dire qu'elles répondent à un principe régulateur du retour des saisons. Donc, la physique au service de la prosternation des plantes et des arbres.
C'est joli, et en même temps, on se dit que c'est important, ça serait vraiment important aujourd'hui, et je pense qu'on va terminer là-dessus, de retrouver cet esprit-là, de faire vivre, d'écrire dans la marge, de s'approprier ce patrimoine et cette transmission commune de l'humanité.
Oui. Pour cela, il faut aller dans le sud du Maroc, aller solliciter ces maîtres qui vous attendent, hein, parce que les portes sont ouvertes, hein, des aouïas et des madrassas, je peux vous le dire. Ils n'attendent qu'une chose, c'est justement la rencontre avec des intellectuels, des penseurs, des scientifiques.
Ils veulent faire passer ces lumières-là venues de l'islam. Hein.
Tout à fait. Et en débattant en plus.
Et en débattant. Merci.
Et dans notre grande et belle Europe et notre France, partout dans les classes, on peut prendre le risque d'un peu de comparatisme.
Comparatisme entre Montagny et Averroès, par exemple.
Par exemple.
Merci infiniment de nous le rappeler. Merci infiniment à tous les deux d'être venus entamer cette conversation que j'espère nous pourrons partager encore. Je rappelle le titre de vos livres, donc Ali Ben Makhlouf, Pourquoi lire les philosophes arabes? C'est à lire absolument chez Albin Michel. Romain Simnel, Ne mange pas ce livre, vous avez expliqué hein, ce titre. Hein. Les enjeux des manuscrits au Sahara, Mali, Mauritanie, Maroc, publié aux éditions marocaines La Croisée des Chemins. Et puis je rappelle aussi l'excellent film documentaire de Jean Crépu sur la piste des manuscrits de Tombouctou qui sera diffusé les 22 et 23 février prochains sur la télévision suisse romande, le 22 mars sur France 5, avec également une avant-première à Paris à la BNF le 5 mars prochain. Qu'on se le dise, on vous en reparlera certainement sur RFI. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, changement de registre autour de la question jusqu'où ira la chimie de la Joconde au test ADN en passant par toutes les mesures de notre santé pour le meilleur comme pour le pire avec Stéphane Sarad, un chimiste qui ne pratique pas du tout la langue de bois. À la réalisation, Charles Pellabon avec Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, amis auditeurs et internautes. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit ouvert et pensez à la marge. Surtout, merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.